بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qu'Allah Azza wa Jal accepte la lecture de nos a'immas de ce soir et que la réalité et la lumière de ces versets bi'idnillahi wa bifadlillahi ta'ala wa karami pénètre nos cœurs. Hier on avait complété Alladina yu'minuna bil ghaib avec le tafsir Ibn Kathir rahimahullah qui rappelait l'importance de cette umma, de ces personnes qui vont venir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas vu le Coran révélé mais qui ont une conviction totale sur les ordres d'Allah Azza wa Jal et qui le mettent en application. On avait vu ensuite et on a vu que selon As-Sa'di ibn Kathir rahimahumullah, cette salat que le croyant se doit d'accomplir, elle se fait par le gestuel, ce que nous avons fait, nos 20 unités de prière, nos rukou', nos sujoud, le tilawat du Qur'an, mais elle se déroule également au niveau du cœur. Il faut que le mu'min s'accroche à la dévotion, à la concentration dans la salat. Et on avait expliqué quelques points concernant l'importance du cœur dans toutes les actions, et on avait fait un parallèle avec un autre ibadah, un autre acte d'adoration, les invocations, les du'as. Et on avait rappelé le hadith que Allah Azza wa Jal accepte les du'as du croyant, mais celui-ci ne doit pas être, il ne doit pas avoir un qalb ghafil, un cœur insouciant. Dire faire du'a et penser à autre chose, ça ne marche pas. Et c'est presque un manque de respect, tant pour les du'as que pour la salat. Je ne peux pas me tenir debout devant Allah, immobile et tout, et le corps est là, mais le cœur est totalement ailleurs. C'est une incohérence et c'est un manque de respect envers notre Seigneur, sachant qu'Allah sait exactement ce qu'il y a dans nos cœurs. En fait, le seul qui sait, qui connaît ce qu'il y a dans ton cœur, c'est Allah Azza wa Jal. Donc, montre à Allah ton investissement et ton envie de trouver sa satisfaction. Alors, évidemment, quand on parle de concentration et de dévotion dans la salat, la question qui revient très souvent, c'est quelle est la façon, ou y a-t-il une recette, y a-t-il une méthode pour trouver la dévotion et la concentration dans la salat? Je suis commerçant, je suis professeur à l'école, je suis artisan, peu importe mon métier, je sors du travail, j'arrive à la masjid. Comment mettre mon esprit en diapason avec la lecture du imam et coordonner tout ça et passer du dunya à une dévotion totale et une recherche de l'agrément divin? Ce n'est pas là quelque chose de simple. Alors, il n'y a pas de formule magique, bien sûr, mais on a quelques conseils à la lumière du Coran et de la Sunna, des explications des savants, quelques points qui peuvent nous aider à travailler la dévotion dans la salat. Parce que vraiment, il faut le faire, il faut travailler cette dévotion. La présence, mashallah, vous êtes tous présents, les 20 rakats, quand on dit Alhamdulillah, c'est une grande action, c'est un grand mujahada, c'est un grand sacrifice. Maintenant, il faudrait optimiser cet effort que nous faisons. Faire en sorte que cette présence-là, elle n'est pas que physique, mais elle est également spirituelle et le cœur y est dans la salat. Les savants disent premièrement, il faut demander à Allah son aide. Dans le tafsir de Wayyak Anasta'in, les savants disent que rechercher l'aide d'Allah dans les situations de la vie, bien sûr, mais rechercher l'aide d'Allah également dans l'adoration. Demandez à Allah, demandez, faites du'a. Ça doit faire partie des du'a, ce qu'on avait cité hier. Demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder al-khushu'u fi salat. Dans certains textes, il est concernant la fin des temps, il est cité que parmi les premières qualités qui vont disparaître de cette umma, c'est al-khushu'u. Hadith stipule que dans une mosquée, il y aura une centaine de personnes qui prient, mais il n'y aura pas une personne qui prie avec un cœur rempli d'humilité et de dévotion. C'est une réalité et c'est ce qui se passera à la fin des temps. Donc, la dévotion, comme on avait dit hier, c'est quelque chose qui se trouve au niveau du cœur. Et moi, je ne peux pas influencer mon cœur. Je peux ordonner à mes genoux de rester debout. Je peux ordonner à mon dos de rester droit dans le rukou'. Ça, je peux, parce que c'est physique. Ce sont des membres sur lesquels j'ai un contrôle. Mais mon cœur, ce que je peux lui dire, attention, toi, tu vas rester concentré, tu auras des problèmes. Je ne peux pas. Le cœur, c'est quelque chose qui nous échappe. C'est pour ça que la sincérité, elle est dans le cœur. Quand quelqu'un est sincère, c'est quelque chose qui se manifeste, qui est clair. Donc, celui qui détient les cœurs, c'est Allah Azza wa Jal. parmi nos invocations, il a d'autant plus le mois de Ramadan, les deux moments clés pour demander doua à Allah, c'est suhoor et iftar, lors du dernier tiers de la nuit où les malaïkas sont présents, et lors de la rupture du jeûne où nos doua sont acceptés. Demandons à Allah. C'est bien, on demande notre dunya. Ya Allah, que j'ai suffisamment d'argent pour payer mes dettes. Allah, j'aimerais tel. Demandons. Mais n'oubliez pas, Rabbana atina fi dunya hasana wa fi l'akhirati hasana. Les deux. On peut demander le dunya, mais la priorité, c'est de demander l'akhirah. Ce qui serait beaucoup plus cohérent. Donc, incluons dans le dua, demandons à Allah Rabbul Izzah de nous accorder cette qualité, la dévotion, la capacité de se concentrer dans la salah. Donc ça c'est la première étape, et choisissons les bons moments pour faire ce dua, le suhur, l'iftar entre autres. Voilà. Deuxième piste, deuxième conseil que les savants nous donnent, là c'est un effort à faire sur soi, parce qu'il n'y a, pas de baguette magique, j'allais dire. C'est pas que je veux être concentré, j'arrive, je suis concentré. Non. En amont, il y a un travail à faire. Parce que c'est quoi le contraire de la concentration? C'est un esprit qui se disperse. Donc il y a une lutte. Il y a une lutte entre ton envie de te rapprocher d'Allah et ton envie de te laisser aller. Vous savez, le manque de concentration, c'est une pente glissante, ça. Et très souvent, c'est toi qui fais le premier pas. C'est toi qui enclenches ta première pensée. Shaitan, il vient, il te dit juste, c'est comme le bac, le sujet de dissertation sera les vacances du mois de mai. Et là, toi qui commences, est-ce que je peux aller, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais voir l'agence de voyage, est-ce que, et ainsi de suite. C'est toi qui commences après ton histoire. Donc, il y a une lutte entre ton envie d'évasion mentale, d'accord, et ton envie spirituelle de te raccrocher et de rester concentré. Donc, la solution en amont pour ramener ce cœur vers le droit chemin, les savants disent tarkul ma'asi, délaisser les péchés. Si au quotidien tu arrives à débarrasser ton cœur des péchés, c'est une première victoire que tu fais, que tu obtiens sur toi, sur ton corps. Et du moment que ton cœur, et de façon générale ton être, se débarrasse des péchés, tu arrêtes de désobéir à Allah Azza wa Jal, tu as une maîtrise sur le cœur. On connaît l'histoire du nafs. Le nafs, il grandit avec tes faiblesses. Plus tu nourris, tu suis ton nafs, plus il devient fort, il a de l'emprise. Alors que quand on le resserre, on le recadre, comme dans le mois de Ramadan, on ne mange pas, on ne boit pas, on résiste, on fait ça, bah, le nafs s'affaiblit. Mais de la même façon, si je reste éloigné des péchés, déjà, avant même de parler de contrôle, il y aura moins de points noirs sur les cœurs, sur le cœur, on est d'accord. C'est les points noirs qui amènent vers les points noirs qui sont inscrits quand on accomplit des péchés. Et parmi les conséquences des points noirs sur le cœur, c'est que le cœur devient, qui trouve l'adjectif, il devient, le cœur devient hermétique. Ça, c'est un gros problème. À force de rester dans les péchés, le cœur noircit, le cœur devient comme une carapace, c'est hermétique. Il n'y a plus rien qui rentre dedans. On peut avoir la plus belle des lectures, ça ne rentre pas. Et ça, c'est un gros problème, ça. Et pour enlever cette surface, cette carapace, il faut demander istighfar. Bon, on était au bas pour que les points noirs, ça, parce que les points noirs ne sont pas définitifs, alhamdoulilah. Il n'y a pas de fatalité dans la religion. Ce n'est pas que lui, il est perdu, c'est fini, non. Au nom de quoi tu juges? Même quelqu'un dans le péché depuis des années, s'il demande un tawbatun nasuha, demande tawbat Allah Azza wa Jalla avec sincérité, Allah pardonne le péché, et son cœur peut devenir plus pur que le meilleur parmi nous ici. Sans le moindre doute, conviction dessus. Ça, c'est la promesse d'Allah, c'est la clémence divine. Donc, l'effort que je dois faire sur moi-même au quotidien, c'est abandonner les péchés. Et le péché qu'on a parlé il y a 3 jours et qui revient le plus souvent, si on peut déjà contrôler notre regard, c'est pas mal. Parce que c'est le péché le plus facile, le plus rapide et le plus fréquent. Et c'est la tentation qui est la plus générale. Si tu as le maîtrise sur tes yeux, ensuite, hifdhul lisan, tu contrôle tes paroles. On ne dit pas n'importe quoi, on évite riba, bohtan, nami, mal, fait de la médisance, colporté, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, tu gagnes des combats contre ton nafs et contre l'appel de Shaitan via le péché. Mais quand Shaitan essaie de t'influencer dans la salah, il a beaucoup moins d'emprise. Vous suivez la logique là? C'est une lutte contre Shaitan au quotidien. Tu gagnes ce combat contre Shaitan concernant tes yeux, concernant ce que tu dis, ton cœur, tes pensées, et ainsi de suite. Ben, Shaitan a moins d'emprise sur toi. Et donc, quand il vient dans la salat, il n'arrive pas, il ne trouve pas le chemin. Donc, et vous savez que plus on fait des sacrifices, Allah accepte. Vous savez, le hadith global, général, celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Celui qui s'approche d'Allah d'un pas, Allah se rapproche de lui. Ce sont des métaphores. Vous comprenez que quand on fait un début d'effort, Allah accepte beaucoup plus que ce qu'on ne mérite. Donc montrons à Allah notre engagement, notre envie de le satisfaire et Allah nous accordera son acceptation. Donc, deuxième point, l'abandon des péchés. Troisième point, il y avait d'autres détails encore sur l'abandon des péchés, mais bon, ce serait trop long, je veux rester dans le timing. كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ طُولَ الْيَوْمِ. Le maximum de dhikrullah tout au long de la journée. Parce que la salat, c'est une combinaison de dhikr et de tilawa, et de lecture. Si toute la journée, tu ne penses pas à Allah du tout, du tout, du tout, du tout, ben c'est normal que quand tu commences à le faire dans la salat, ça ne se connecte pas tout de suite. C'est pas aussi simple. Alors que si ta langue est trempée de dhikrullah, ton cœur pense à Allah tout le temps, oh, alors on va dire le maximum de fois possible, tu penses à Allah Azza wa Jal, le cœur il a déjà un lien avec Allah. Et donc quand il y a la prière, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah, la connexion elle sera possible et elle sera beaucoup plus facile. Autant que je vous assure qu'on a des moments de libre, même si j'ai un emploi du temps chargé, on a cette chance d'avoir des embouteillages. On a cette chance de devoir attendre notre tour dans un magasin, faire la queue dans les supermarchés. Il y a des moments d'attente. On a la chance de faire au moins une fois par semaine la route du littoral. Et une fois par mois, on l'a en mode basculé. Donc, ce sont des moments propices. Et on trouve, et Allah ouvre le chemin, demandant à Allah le tawfiq de faire le dhikr Allah. Allah crée des situations où tu pourras faire le dhikr Allah. Le cœur qui s'habitue à penser à Allah en dehors de la salah, il pense, alors qu'on est dans le monde, dans le domaine du dunya, ben dans la salah, il trouvera facilement le chemin vers Allah Azza wa Jal. Ça tient ça? C'est cohérent? C'est possible? C'est accessible? Je pense que c'est accessible. On ne demande pas de faire des choses extraordinaires. On a dit, si tu veux trouver la concentration de la salat, tout le matin, quand tu te lèves, prends un billet de 100 euros, mets dans une enveloppe, sadaqa, tous les jours. La concentration, ça fait 3 000 euros par mois. Ça va être chaud, la concentration. Non, on ne demande pas des choses extraordinaires. C'est des choses qui sont tout à fait dignes et faciles. Et Allah a rendu les moyens de se rapprocher de lui faciles et accessibles à tout le monde. Ah, là, ça fait 3. On accélère. Quatrièmement, alors ça, c'est un point essentiel, peut-être qu'on aurait dû le dire au début, mais peu importe. Ahdirin niya. Ramène ton intention. Place ton intention. Chers frères, les ibadas ne se font pas de façon improvisée. C'est pas quelque chose de mécanique qu'on fait comme ça, qu'on lâche, on fait une salat, on ne sait pas où on est venu, on a fait combien de rakat. Non, non, non. Le niya, on le place bien. Il faut que le niya, on ne veut pas être trop long, hein, je suis désolé. Le niya, il commence depuis à la maison. Quand on fait les ablutions, on se prépare, on met de beaux vêtements, on se parfume, on fait les pas vers la salat, on sait les récompenses qu'il y a, les péchés qui sont effacés. Et je me prépare psychologiquement, spirituellement, mais aussi psychologiquement, je vais me tenir debout devant Allah, je vais faire l'adoration de mon Seigneur. Une mise en condition du cœur, depuis le départ, placement de l'intention, je vais me tenir debout devant mon Seigneur, je m'acquitte de mon devoir envers lui, je recherche son agrément par la position debout, le court, par le sujoud, prosternation, où je suis le plus proche d'Allah, dire que placer l'intention et savoir qu'est-ce qu'on fait exactement, ça aide énormément. On ne va pas en plus de détails. Cinquième point, c'est l'avant-dernier. Ma'rifatul ma'boud. Tu dois savoir qui tu adores. C'est-à-dire développer iman billah. C'est la base, non? Et les 6 bases de la foi, ce qu'on a appris un peu à la madrasa, sous différentes formes. Amantu billahi. Ça commence par amantu billahi. Après, yawa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tout ce qu'on sait. Mais amantu billah, je crois en Allah. C'est pas uniquement, je dis qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est la base. C'est la ilaha illallah. Mais c'est connaître qui est Allah. connaître devant qui tu te prosternes, pour que le cœur ressente, le cœur essaie de s'imprégner de la grandeur. On ne pourra jamais ressentir la grandeur, c'est trop fort, mais au moins que le cœur s'imprègne de la grandeur d'Allah, que dans ce cœur il y a l'amour d'Allah, la crainte d'Allah. On sait devant qui on se prosterne, et quand on lit dans la salat ihdinas sirat al mustaqim par exemple, je sais que je suis en train de demander la guider à mon Seigneur Azza wa Jal. Et là, ça, on peut aller avec une autre thématique, c'est également savoir ce que tu dis dans la salat, ce qui est essentiel. Est-ce que c'est cohérent et normal que tu répètes une formule, tu lis des choses que tu ne comprends pas dans la vie de tous les jours? C'est pas possible, ça. Quand tu vas voir un médecin, un avocat, tu as un entretien ou autre chose, quand il te pose des questions, tu dis des paroles que tu maîtrises, c'est censé. Mais comment est-ce que j'accepte, moi, de lire des choses? Après, on va connaître tous les tafsirs, mais comment est-ce possible que je fais mes salats et que je ne me suis jamais posé même la question? Qu'est-ce que ça veut dire? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça veut dire quoi, Maliki Yawmiddin? Ça veut dire quoi, Subhan Rabbi Al-A'la, Subhan Rabbi Al-Azim? Il y a un travail à faire quand même, non? Il y a un travail, on a, mashallah, cette intelligence, cette capacité de comprendre tout ça. Donc là, ça nécessite un peu d'effort, des études, se rapprocher d'un alim ou prendre des cours, trouver l'environnement spirituel qu'il faut pour essayer de décrypter, de comprendre ce que nous lisons dans la salat. C'est la clé pour trouver la concentration et la dévotion dans la salat. Alors, par quoi on doit commencer? Par le tafsir d'Al-Fatiha. Et pas la traduction, hein. Traduction, c'est basique, ça. Mais vraiment, essayez. Il y a des tafsirs qui sont, traduits en français, qui sont de très bonne qualité. Donc, à mon humble avis, tafsir al-Fatiha et les 10 surat, les dernières surat, depuis Al-Amtara jusqu'à Anna, ce que on lit en général dans nos salats, dans les sunan et rawatib, et ainsi de suite. Donc, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, essayez de comprendre Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-Azim et les différents tafsirs de leur salat. Ça va vraiment nous aider. Non. Après, il y a la préparation pour la salat qui commence depuis la maison. Mais ça, on l'a dit, on a un peu mélangé tout. Le fait de venir à pied à la salat, si possible, en état d'ablution. Et si on peut, les tahiyatul masjid. Puisque les savants disent également, essayons d'arriver tôt, dans la mesure du possible, de la masjid. Parce que si on sort du dunya et on arrive directement, on commence par exemple la salat de dhuhr, c'est sûr que c'est une transition un peu violente. Entre le dunya 100% et le din 100%, c'est un peu violent. La transition, c'est de faire les sunnat avant la salat. Ou deux rakat tahiyatul masjid. C'est-à-dire que c'est une mise en condition de ibadah, afin que quand tu commences la salat maktouba, la salat qui est obligatoire, il y a déjà une mise en condition. Ça va, Inch'Allah? On peut suivre. Le point suivant, ad-du'a ba'da salat. N'oublie pas de demander du'a après la salat. Rabbana taqabbal minna, essentiellement. Demander à Allah Azza wa Jalla l'acceptation, et autant que possible, si on a le temps, mais en fait, c'est faux de dire si on a le temps. Il faut trouver le temps de faire les adhkar après la salat. Ça, c'est. Les savants disent que ça, c'est un nuage de lumière qui va rester jusqu'à la prochaine prière. Les adhkar après la salat. Très souvent, on remarque que quand l'imam a terminé, salam alaykoum rahmatullah, hop, c'est comme un sprint, les gens, ils se lèvent, ils courent. Peut-être qu'on est mal garé. Ne vous garez pas devant la madrasa, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a une obligation, on nous attend, on travaille. Ok, mais tout le temps, tu es aussi important. On t'attend après les 5 soirs là, on t'attend après Fajr aussi, c'est incroyable ça. Même un ministre n'est pas attendu à 5h du matin. D'accord? Non, prenons un peu de temps pour faire les adhkar en priorité. C'est pas des dhikr compliqués. Subhanallah 33, Alhamdulillah. Et ça, c'est énorme, ça, c'est adhkar. Hein? C'est-à-dire que quand on dit Subhanallah, Allah ordonne aux anges de planter un arbre de paradis pour nous. C'est quand même, je veux dire que c'est magique, c'est magnifique. Et c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une promesse d'Allah. Donc prenons le temps de faire nos adhkar. Et parmi les dhikrs qui sont vraiment enrichissants, c'est, par exemple, Fajr, de lire 10 fois, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, wa ala kulli shay'in qadir. Ça, c'est 10 fois après Fajr et 10 fois après Maghrib. Et pour les autres salats, c'est une seule fois. Et ensuite, on enchaîne avec les 33, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. D'accord? Et en faisant ces efforts, Allah va voir qu'on est sincère. de la recherche de la concentration. Parce que celui qui trouve la concentration de sa salat, imaginez le nombre de salats qu'on fait, et qu'à chaque salat j'ai la concentration, mais quel bonheur, mais quel enrichissement spirituel. Et c'est après ce genre de salat que réellement nous nous voyons débarrasser des péchés, qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde cette qualité et nous permet de développer une salat vraiment avec cœur, avec dévotion, concentration, présence de cœur, et qu'Allah nous élève dans cette salat. Tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.